colloque. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Monsieur Malice a écrit « L'interaction des évolutions techniques et technologiques débouchera sur une révolution robot numérique, les robots en première ligne, l'intelligence combattante sur la base arrière. » Alors, je voudrais essayer de discerner ce qui sera devenu réel dans une quinzaine d'années, étant donné qu'il y a deux facteurs antagonistes qui empêchent une bonne prévision. Une constante de temps de 2 ans que je vais expliciter, d'autre part le conservatisme des décideurs que vous connaissez très bien. Alors voilà, je me permets de rappeler cette citation parmi beaucoup d'autres. « L'aviation est une affaire de sportif qui n'a aucun intérêt militaire », qui a été déclaré par le général Foch en 1913. Je pourrais naturellement vous en donner beaucoup d'autres du même style. Mais c'est pour vous dire qu'il y a une évolution technique, et cette évolution technique, on ne peut pas la nier. Il faut au contraire essayer de la comprendre. Alors je crois qu'il y a un fait tout à fait extraordinaire l'évolution technique, c'est l'entrée dans l'industrie des investisseurs venus de l'informatique de Silicon Valley. Facebook, Google, Amazon, SpaceX sont des compagnies qui ont toutes mis sur la table des dizaines de milliards. Alors, je veux me placer dans une évolution générale du panorama mondial. Je pense qu'il est dominé par l'expansion démographique, mais qui est appuyé par l'augmentation du niveau de vie. Donc ça signifie que la consommation des ressources naturelles augmente de 2% par an, ce qui est un rythme tout à fait insoutenable. Et le résultat, c'est la création de pénuries, d'où des conflits internes, donc des migrations et conflits externes. Et donc, en conclusion, les guerres asymétriques seront les principales batailles, et les batailles se livreront en grande partie sur le terrain médiatique. Alors, dans cet exposé, voilà comment je vais opérer. D'abord, le fait essentiel, la loi de Moore, sur lequel je vais revenir. Après ça, quelques mots sur le big data, cyber, le combattant, le web des objets, les drones, l'espace et le chef. Alors, naturellement, je ne peux pas entrer dans les détails. Je dirais simplement quelques idées générales, sans vouloir couvrir aucun de ces sujets, qui seront d'ailleurs couverts par certains d'entre vous. Alors, moteur du progrès technique, bien la loi de Moore, elle a déjà été mentionnée par l'ingénieur général Crémieux hier. Il y a deux parties dans la loi de Moore. Le nombre de transistors par chip double tous les 2 ans. Le prix des chips est divisé par 2 tous les 2 ans. Cette loi est devenue très importante le jour où l'industrie des composants a décidé de prendre la loi de Moore règle pour ses investissements. Donc la loi de Moore est devenue à ce moment-là autoprédictive. Est-ce que quelqu'un peut déplacer un peu le... Voilà, merci beaucoup. Alors, cette loi a été valable de 1962 à 2015. Jusqu'à présent, on en est à ce que la lithogravure, qui est le procédé utilisé pour fabriquer les composants, en est à 14 nanomètres. De façon industrielle pour les détails de gravure. Nous sommes au niveau de la longueur d'onde de la lumière, donc ça commence à devenir très difficile. Cependant, il y a quelques semaines, IBM a annoncé pouvoir passer à 7 nanomètres. Mais il y a des pistes. Parce qu'il est bien possible qu'on ne puisse pas continuer à augmenter le nombre de transistors. Il y a des nouveaux matériaux, en particulier les tubes de carbone. On vient de construire un premier ordinateur avec des tubes de carbone. Deuxièmement, la gravure en extrême ultraviolet. L'architecture en 3D, c'est déjà en cours. Et puis j'attire votre attention sur le mot SOC, c'est-à-dire System on a Chip, où on ajoute sur le chip des parties qui sont au fond liées à des capteurs. Et donc, on dépasse le niveau du processeur habituel. Voilà la loi de Moore. Alors, c'est sur une échelle semi-logarithmique. Vous voyez, en abscisse, le nombre de transistors, on est en abscisse, vous avez le temps, en ordonnée, vous avez le nombre de transistors. La courbe verte en haut est presque une ligne droite, donc ça veut dire dans cette échelle logarithmique, nous avons une exponentielle qui a cette constante de temps dont je parlais tout à l'heure. Vous voyez qu'il y a une série de qualités qui saturent à partir de 2000, à peu près 2005, en particulier la vitesse d'exécution et la puissance, et ça n'empêche pas le nombre de constituants de continuer à augmenter, et il y a donc des méthodes pour empêcher que cette saturation empêche la loi de Moore de continuer. Ce sont celles que j'ai indiquées tout à l'heure. Voilà une autre manière qui est assez intéressante de montrer la loi de Moore, où vous voyez que ça, c'est la taille des motifs minimaux. Eh bien, ça a été fait vers 2005. On était à 45 nanomètres. Et je vous indiquais tout à l'heure que maintenant, en 2015, nous allons atteindre, peut-être pour une coproduction industrielle, en 2018, la taille de 7 nanomètres. Donc, tout ça continue. Alors, le résultat, et c'est quelque chose, une loi qu'il faut comprendre, parce que c'est pour ça que je place ça au centre de ma réflexion, c'est l'établissement de la connectivité universelle. Et cette connectivité universelle, elle aboutit à la connexion universelle. Ça veut dire que les communications entre les différentes personnes dans le monde, différentes organisations, différentes structures, deviennent maintenant généralisé, tout le monde peut parler à tout le monde. Et ça veut dire que, y compris les sous-développés, où nous avons 1 milliard à peu près de smartphones, ou de téléphones mobiles au moins, en service, nous avons 1 milliard de gens qui utilisent GPS, et donc ça veut dire que nous sommes vraiment en présence, d'une capacité globale de communiquer. Et je veux indiquer quelque chose de très important, une idée qui m'est chère, c'est que cette loi de Moore, cette connectivité, eh bien, elle est surtout, elle profite relativement plus aux gens non développés qu'aux gens développés. Et ça, c'est quelque chose, c'est un processus égalisateur. Et ça, c'est quelque chose d'absolument capital. Et c'est à cause de cela que les conflits asymétriques vont devenir de plus en plus dangereux. Parce que dans l'asymétrie, eh bien, le faible est en train d'acquérir de plus en plus de force par rapport au fort. Alors, les conséquences de la loi de Moore, j'en ai vois deux catégories. Premièrement, sur le hard, eh bien, il y a une succession de créations de produits révolutionnaires. D'abord, naturellement, l'informatique grand public en 1980-85, et qui a transformé complètement toute la pratique intellectuelle et industrielle du monde. La commercialisation de processeurs pour toute l'électronique, donc en particulier pour système d'armes, transformation totale des capacités des satellites, et donc l'établissement de la TV directe mondiale, du GPS, de la télédétection, tout produit que j'appelle produit pour la foule, ainsi que le téléphone mobile, et même maintenant l'industrie automobile, qui a été transformée. On me dit que, je vais revenir sur l'automobile, mais on me dit qu'à l'heure actuelle, il y a plus de codes à bord d'une auto que sur le F-35 ou sur l'accélérateur du CERN. Pardon, excusez-moi. Alors oui, la conséquence de cette expansion du hardware, c'est la communication. C'est-à-dire que là, c'est pas des évolutions, c'est des révolutions, une succession de révolutions. Internet, puis le SMS, qui est devenu le langage qui n'existait pas en 2005, qui est devenu le langage de la jeunesse. Les réseaux sociaux, qui ont créé des mouvements politiques comme le printemps arabe ou les guerres asymétriques. Elles ne créent pas les guerres asymétriques, mais elles les modifient très profondément. Alors, deuxième point, une des conséquences de la loi de Moore, c'est que la quantité de données à traiter devient extrêmement importante. Et elle dépasse en général la capacité de gestion des bases habituelles. Je vais donner quelques exemples. 200 millions d'emails par jour, 22 petabits par byte par jour traités par Google. La quantité de données fournies par des drones américains militaires est augmentée de 1600% depuis le 9 septembre. Les forces américaines disposent de 7 millions d'ordinateurs. Donc, les facteurs reviennent de... Je vais vous montrer une courbe qui montre la baisse du coût du stockage, qui est tout à fait spectaculaire. C'est une sorte de loi de Moore aussi. Et en même temps, suivi par le développement algorithmique. Donc, nous assistons à une révolution informatique dont j'ai donné la liste des quatre dimensions principales, en particulier la programmation massivement parallèle qui est devenue un point central sur le développement des données. Voilà la courbe dont je vous parlais, c'est-à-dire l'évolution du coût de stockage. Vous voyez qu'on est passé pour un gigabyte de stockage à 1 million de dollars en 1980 à 0,01 dollar aujourd'hui. Alors voilà le genre de courbe exponentielle qui, évidemment, puisque là encore nous avons une échelle semi-logarithmique, qui joue un rôle majeur dans l'évolution des sociétés. Et je veux conclure ce que je veux dire là-dessus, sur le fait que quand vous avez une constante de temps du progrès technique, car ce progrès technique, comme je viens de l'indiquer, s'étend depuis les composants jusqu'à l'ensemble de toutes les communications mondiales, quand vous avez une constante de temps de deux ans, eh bien ça veut dire que l'avenir devient totalement obscur. Avec une constante de temps de deux ans, eh bien, véritablement, nous sommes dans le brouillard. Et je compare ça à l'évolution de, disons, des idées, appelons-les psychosociales. Eh bien, là, la constante de temps, c'est plutôt d'une génération, c'est-à-dire 30 ans. Jamais dans l'histoire, nous avons une telle déconnexion entre la rapidité d'évolution du progrès technique et la rapidité d'évolution de toutes les idées en général. Et là, donc, c'est pour ça que nous devons faire extrêmement attention sur ce que nous pensons de l'avenir. Alors, maintenant, je vais prendre une série de points les uns après les autres. D'abord, la cyberguerre, c'est-à-dire l'attaque des, disons, des systèmes d'informatique. Ça va être traité par l'un d'entre vous tout à l'heure en ce qui concerne sa défense. Donc, je vais simplement indiquer quelques idées générales qui, j'espère, ne vous gênera pas. Premièrement, de quoi il s'agit ? Eh bien, il y a de nombreuses armes qui sont maintenant bien rodées et dont j'ai fait la liste, là, des pénétrations aux ordinateurs, le déni de service, les virus, les verges, Shroud 3, spyware, etc. Et il faut noter que ces attaques sont des égalisateurs de force entre nations, groupes et individus. Et ces attaques, eh bien, il y en a tout le temps et il y en a énormément. Alors, voilà des exemples internationaux. L'arrêt complet de l'activité de l'Estonie en 2007 après le déplacement d'une statue soviétique d'un cimetière à un autre, que l'Estonie, qui était reposée beaucoup sur Internet, a été arrêtée complètement pendant une journée par une attaque non identifiée, mais enfin, on voit bien d'où elle venait. Stuxnet, vous avez entendu parler de Stuxnet qui a réussi à détruire à peu près 1000 des 5000 centrifugeuses de l'usine de Natanz. Flame, qui a été très difficile à détecter, y attaquait Windows et en particulier qui a arrêté le terminus de cargue. C'est bien loin d'être tout. Contrairement à la guerre conventionnelle, les pays les plus développés sont les plus vulnérables. Alors, ces menaces sont les services publics, les services opérationnels, les services militaires et les gens qui ont la détention d'informations protégées. Alors, aux États-Unis, vous avez 6 millions d'attaques par jour, y compris, pour une fois, le réseau du central command de Tampa. Voilà une déclaration de Obama. La menace cybernétique est l'un des plus importants défis auxquels doivent faire face les États-Unis. Il y a une série de mesures qui ont été faites. Et regardez en bas, de 2010 à 2015, le gouvernement américain a consacré 50 milliards de dollars à la cyberdéfense, c'est-à-dire 10 milliards par an. Donc c'est un effort très important. En France, je ne veux pas insister sur ce qu'on fait parce que ça vous sera présenté tout à l'heure à part quelqu'un de beaucoup plus compétent que moi. Mais je vous donne quelques exemples d'attaques. Le Sénat a été attaqué le 25 décembre par un déni de service et son site internet a été saturé. Le ministère de l'économie et des finances a été attaqué au début de 2011. L'attaque était un peu faible, mais enfin elle était tout de même très nette. Le groupe Areva a été attaqué. La chaîne TV5 Monde a été le 9 avril dernier, elle a été arrêtée complètement pendant une journée entière. Et en particulier, ce qui a été assez péniblement ressenti, c'était la publication d'informations sur les parents de militaires impliqués sur les théâtres. Cette attaque a été revendiquée par Daesh avec la phrase que j'ai citée en bas. Au nom d'Allah, le très miséricordieux, le cyber-califat continue de mener le cyber-jihad contre les ennemis de l'État islamique. C'est-à-dire que c'est là une illustration de ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'importance pour les gens, les faibles, dans le combat contre les forts. Alors, dans le système francophone, sont censés 2370 sites pro-Daesh, 41 000 tweets pro-Daesh quotidiens, 3 millions de gens qui participent à ça. Il y a un service de propagande qui est identifié à Raqqa en Syrie avec pour relais nos infrastructures et nos opérateurs intermédiaires. Mais dans ce domaine, on ne parvient pas à imaginer les formes que prendront les attaques. Nous sommes mal armés, ne consacrons pas assez d'attention et de moyens à une menace polymorphe. Donc là, la guerre nouvelle, elle se déplace sur le, disons, du terrain que vous connaissez à quelque chose d'entièrement nouveau, qui est l'enfant de la loi de Moore et qui est extrêmement dangereux. Alors les lacunes, ça, mes chiffres là, je pense que seront corrigés tout à l'heure. Mais ce qui est les lacunes sont surtout au point de vue psychologique. Les différents ministères ne considèrent pas la sécurité informatique comme une priorité en général, et les organisations d'importance vitale sont insuffisamment sensibilisées à la menace, alors que 70% d'entre elles ont été attaquées en 2010 et depuis, c'est devenu pire. Bon, ça, je pense. Alors, maintenant, après ce premier champ de bataille, qui est un champ de bataille sur lequel nous sommes menacés et très mal armés, une catastrophe peut arriver d'un instant à l'autre. Voilà, maintenant, je reviens au champ de bataille traditionnel. Alors, là, j'espère que vous me pardonnerez une certaine présentation met en avant les systèmes automatiques, parce que vous allez voir qu'il y a véritablement des avances révolutionnaires sur les systèmes informatiques, donc le combat entre le robot et l'homme qui vous intéressera certainement et qui fait l'objet de beaucoup de discours, c'est pas de ce dont je vais parler du tout. Alors, la technologie utilisée par les militaires devient de plus en plus autonome et donne plus d'autorité à la machine engagée dans le combat. Et le scénario hollywoodien reste encore dans le futur à une distance peut-être d'une dizaine d'années, mais nous le voyons arriver rapidement, comme je vais vous le montrer. Alors, ça, c'est un des centres de développement dans le monde du robot militaire. Je vous le donne, si ça vous intéresse, de regarder sur leur site. Il y a un certain nombre de choses. Vous voyez ici deux véhicules. Je vais revenir sur les véhicules. Deux véhicules qui sont des véhicules opérationnels. Alors, je vais commencer pour essayer de voir l'avenir. Il faut voir ce qui existe aujourd'hui. Alors d'abord, le premier, c'est presque du passé, le Markbot, qui a été mis en place à partir de 2003-2004, essentiellement pour lutter contre les IED. Cet engin, dont je vais vous montrer quelques photos, a eu tout de suite du succès. Et c'est un système automatique. Premier prototype a identifié 30 bombes placées par des ennemis des États-Unis sur la route entre l'aérodrome et la zone verte à Bagdad. Donc 1000 exemplaires, plus de 1000 ont été fabriqués, donc il ne s'agit pas de science-fiction, mais quelque chose qui est opérationnel, qui a été opérationnel il y a maintenant plus de 10 ans. Alors voilà un exemple, une photo qui vous montre la tête de cet animal. Il y en a d'autres. Oui, ça, en fait, celui-là, c'est un robot dont je vais parler après. La photo est mal placée. C'est le successeur du Markbot, le Packbot, dont je vais reparler. Mais j'ai mis cette photo pour que vous voyez la taille de l'engin. C'est une petite chose. Alors donc, je continue à la suite Markbot, qui a été tout de suite contré par les ennemis des États-Unis. Il y a eu toute une série d'engins, d'abord le Talon, puis le Mars. Regardez le Mars, version agrandie du Talon, armé d'une mitrailleuse et lanceur de grenades, mais on peut aussi mettre des fusils. Performance, il y a ensuite un soft d'automation modeste, et il est limité à l'environnement urbain, c'est-à-dire qu'il ne va pas se promener dans les champs. Plus de 3000 ont été livrés et découvert, là, je ne sais pas remplacer, qui ont découvert près de 20 000 OD. Alors Big Dog, je vais vous le montrer aussi, c'est une machine à pattes qui est destinée au transport des charges jusqu'à 150 kg. Alors c'est vous dire que les États-Unis se sont lancés en grand dans ce genre d'animal. Voilà le Mars, ça c'est pas de la science-fiction, c'est un système qu'on vient de parler, donc plus de 1000 ont été livrés, et qui porte une mitrailleuse. Naturellement, vous pouvez enlever la mitrailleuse, il y a aussi des lance-grenades que vous pouvez voir, et ces engins peuvent être changés pour quelque chose d'autre. Voilà une autre photo du Mars pour que vous voyez... sa dimension par rapport à un homme. Alors après le Markbot, il y a eu le Packbot, qui est un robot modulaire multimission. C'est une sorte de petit châssis, c'est celui que je vais montrer tout à l'heure, un petit châssis mobile à chenille qui est tout petit, vous voyez, 30 par 30 par 18 cm, mais il se déplace à 9 km. Il a une autonomie de 4 heures, il peut monter, comme je vais vous le montrer, des escaliers. Il a une charge utile qui est modulaire, c'est-à-dire qu'elle peut être modifiée, ça peut être une caméra, un bras manipulateur, un kit de détecteur d'explosifs, etc. Voilà le Packbot en train de grimper un escalier. Tout seul. Hein. Alors, ce paquebot, ça vaut la peine de dire quelques mots. Déployé par une personne en 2 minutes, il émet en temps réel, vidéo, audio, aux données de senseur. Il est contrôlé à la main dans le style jeu vidéo avec un laptop pour un opérateur. Il est modulaire, il coûte $800. Il détecte et neutralise des EID, vérifie la présence d'explosifs, etc. 4500 ont été livrés, 200 ont été déployés en Irak et en Afghanistan, et ils ont été utilisés pour pénétrer en centrale de Fukushima. Alors maintenant, c'est quelque chose de plus extraordinaire, sur lequel je veux attirer votre attention, c'est le dernier développement de Samsung, qui a commencé en 2006 le robot SGR-A1 pour servir de sentinelle dans la zone démilitarisée de 4 km de largeur entre les deux Corées, c'est-à-dire détecter les passages clandestins. Cet animal a été déclaré opérationnel en septembre 2014. Donc ça veut dire qu'on est en présence d'un système opérationnel aujourd'hui. Alors il est muni d'un système de détection, caméra visible, infrarouge, qui porte à 4 km, puisque l'ADEME zone a 4 km de large. Il y a un logiciel de tracking qui analyse et suit le développement de l'Institut. Il a des mitrailleuses, un lance-grenade. Il peut soit... Il est entièrement en autonome pour suivre parler à un opérateur à distance, soit ouvrir le feu de sa propre initiative. C'est-à-dire qu'il voit un intrus, il lui demande quel est son mot de passe. Si le mot de passe n'est pas le bon, il tire. Donc il est capable d'entendre et de parler. Il ne fait pas de différence entre ami et ennemi. Et enfin, il a une intelligence assez bonne et possède encore beaucoup de potentiel. Il ne s'endort ni ne se déconcentre, vaut donc bien mieux qu'une sentinelle. C'est ce que disent ses utilisateurs. Voilà une photo de cet animal. Vous voyez que ce n'est pas grand-chose. Pourtant, il y a beaucoup d'électronique, il y a beaucoup d'influence de l'amour là-dessus. Voilà une autre photo qui est malheureusement pas bonne, mais c'est la seule chose que j'ai pu me procurer. Alors, vous voyez le genre d'animal. Il y a les détecteurs en haut et en bas. Il n'y a pas l'armement là-dessus. Alors maintenant, je veux ajouter une dimension à ce robot sentinelle. Et je veux venir à quelque chose qui pour moi est tout à fait nouveau et très important. Je parle maintenant d'automobile ordinaire, votre voiture ou autre. Le véhicule connecté est déjà offert par toutes les grandes marques, mais Apple, qui a transformé l'industrie, puisqu'il a joué un grand rôle dans l'automatisation, il a déclaré « on ne conduit plus des automobiles, mais ordinateurs ». Et une déclaration du PDG de Volkswagen, « d'ici 2020, nous aurons transformé l'ensemble de nos véhicules en smartphones sur roues ». Mais en fait, les constructeurs veulent aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Alors, il faut quand on réfléchit aux autos qui se propagent toutes seules, je classe en 4 étapes. Première étape, on commence par décharger l'automobiliste de tâches fastidieuses, donc des petites choses très simples, comme par exemple le créneau de parking, la navigation par GPS, la régulation de vitesse. Deuxième étape, la conduite est prise par le système d'autonomie avec le conducteur à bord. Troisième étape, le conducteur est toujours à bord mais fait quelque chose d'autre, comme par exemple il lit ou il dort. Quatrième étape, conduite en l'absence de toute présence humaine. Où en sommes-nous? Alors, tout a démarré fortement avec Google. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un fait nouveau, c'est l'apparition d'investisseurs ultra riches dans les développements industriels. Alors, en octobre 2006, Google annonce avoir conçu un système de pilotage automatique pour automobiles. Et alors, tout ce qu'on fait à l'heure actuelle, c'est on équipe des véhicules classiques, des véhicules ordinaires, commerciaux. Là, il y a les Toyota Prius, Audi, Lexus. Et alors, Google les a équipés de capteurs. J'ai donné une liste non exhaustive. LIDAR, radar, caméra, d'un récepteur GPS, deux capteurs d'un roue motrice. Et à l'heure actuelle, l'équipement est cher, il est de 150 000 dollars, mais on en est aux essais sur route avec un conducteur passif. En 2015, Apple n'a pas encore décidé s'il développerait une voiture électrique, une voiture autonome ou une combinaison des deux, mais il vise cependant un produit commercial en 2008. Il fait travailler 600 ingénieurs. On ne sait pas du tout sur quoi. Ils veulent transformer l'industrie automobile quand ils vont transformer celle du téléphone mobile. Voilà la voiture Google. Alors voyez, là il s'agit d'un petit véhicule où tous les détecteurs sont placés sur le toit. C'est général pour tous les essais. Alors aucun des grands constructeurs d'automobiles ne possède une expertise comparable à celle d'Apple, mais aucun ne voudrait être réduit à fabriquer des châssis pendant que d'autres produiraient les lucratifs software. Et donc, la plupart ont des projets plus ou moins avancés. J'en donne une liste non exhaustive. Vous avez Nissan, dont le patron Carlos Ghosn, qui n'est pas un rigolo, a déclaré en 2020 « les premiers véhicules entièrement guidés par ordinateur seront proposés aux clients ». Alors, vous voyez en Europe, Audi, Mercedes, Volvo. En Angleterre, vous avez une Lutz Pathfinder, je vais vous la montrer. En France, lisez ça. PSA a fait rouler le 2 octobre 2015, il y a quelques jours, entre Paris et Bordeaux, une Citroën Picasso autopilotée sur 600 km, avec un homme à bord. On est à ce niveau-là, mais l'homme n'a rien fait sur 600 km. Les équipementiers Valeo, Continental sont extrêmement actifs également. Et donc, retenons, voilà la petite voiture anglaise qui se promène dans les rues de Coventry et de Milton Keynes. Alors, l'état des lieux, 25 voitures Google ont déjà parcouru 3 millions de kilomètres, dont 1 million en autonomie totale. Il y a eu 11 accidents qui étaient pratiquement essentiellement des percussions à l'arrêt de la voiture due à un autre véhicule sur la route qui n'a pas réussi à freiner aussi bien que la voiture autonome. Et ça en dit long sur les difficultés qu'on aura à introduire dans la circulation normale des voitures autonomes. Je cite aussi Sergio Marchionne, qui n'est pas non plus un petit rigolo, le patron de Fiat Chrysler. Il ne s'agit plus de science-fiction, ils arrivent. En 2025, la voiture autonome sera une réalité industrielle, au moins en milieu urbain et sur autoroute. Ah voilà, des camions militaires américains équipés d'un kit de conduite autonome. Il y en a 7 avec 7 méthodes, 7 modèles différents qui circulent en autonome. Ça, c'est un essai qui a été fait avec une vitesse atteignant 64 km/h. Voici un autre exemple. Ça, c'est un véhicule de déminage, également autonome. Alors, vous voyez devant le système de détection des mines. Alors là, je vais vous montrer enfin le Crusher, qui est un gros véhicule, qui est également en développement, qui pèse 6 tonnes, 6 roues motrices à pneus, roule à 40 km/h. Le voilà. Voilà ce système-là. Regardez, lui, il va tout de même pas mal sur le terrain accidenté. Alors maintenant, je conclue donc, nous allons avoir des systèmes autonomes capables de se déplacer dans beaucoup de situations difficiles. Alors un aspect un peu différent dans mon texte final, ça sera, excusez-moi, mieux présenté, mais je voulais tout de même vous citer que ces troupes au sol peuvent avoir des défenses antimissiles qui essentiellement sont devenues opérationnelles en Israël. Iron Dome, c'est pas le drone, Iron Dome, a un temps de réponse de 11 secondes seulement. En 11 secondes, il discrimine la cible qui est visée par la fusée qui a été lancée par l'adversaire. Et il fait discriminer, ça veut dire il voit celles qui vont tomber sur une maison et celles qui vont tomber dans un champ. Alors, celles qui vont tomber dans un champ, il les abandonne. Il a l'intelligence de viser uniquement celles qui vont tomber sur une maison. Et là, ils ont 90% de succès. Mais ça ne suffit pas parce que les attaques de saturation pourraient complètement empêcher le système de fonctionner. Alors, il y a à l'heure actuelle le Iron Beam qui est en développement et qui, lui, a un temps de réponse de 4 secondes. Alors là, il fonctionne avec un laser. Excusez-moi, c'est pas 150 km. C'est 150 kilowatts. Mais là, le coût du tir n'est pas 50 000 dollars, mais 1 dollar. Il est en développement, il va bientôt devenir opérationnel. Alors, excusez-moi de cette parenthèse, je reviens à ma conclusion sur, l'aide aux fantassins. À Patreon 2025, alors, voilà, j'imagine qu'on prend le robot coréen que je vous ai montré, qui est opérationnel, et qui est donc un monsieur qui automatiquement est capable de reconnaître l'adversaire et de tirer sur lui, et je le place sur un Google Car. En 2025, c'est faisable, dans 10 ans, il n'y a aucune difficulté. Nous aurons un Terminator mobile armé de mitrailleuses et lance-grenades à choisir selon la mission, le terrain. On le voit soldat de la paix, protégé par de petits drones lanceurs de bombes, le tout avec ou sans intervention humaine. Et naturellement, il y a des gens qui vont dire, mais il va y avoir des dommages collatéraux, puisqu'il tire tout seul, sans qu'il y ait intervention humaine. Mais alors, là, je répondrai, oui, peut-être que là, il y a des problèmes éthiques, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va pas propager le choléra comme les soldats de l'ONU népalais l'ont fait en Haïti, ou il va pas violer des petites filles comme les soldats français l'ont fait en Centrafrique. Alors, donc, la cavalerie en 2025, un châssis minimal, une Jeep peut-être, un puissant cerveau électronique, permettent de donner l'autonomie, augmenter d'un détecteur de cible optique radar, un smartphone avec écoute et parole, et puis j'ajoute du un blindage et puis de la tôle, et vous avez le tank. Et donc, le tank, il ne faut plus en parler, parce que c'est stupide par rapport à mon petit engin là qui va coûter 100 fois moins cher et qui sera sans doute 100 fois plus efficace. Alors, naturellement, les nombreux problèmes sont posés par l'irruption des combattants robotisés. L'intelligence artificielle peut donner aujourd'hui une complète autonomie, mais les décideurs militaires ne savent pas la gérer. Alors, naturellement, nous reconnaissons que l'homme reste l'acteur principal, ça c'est la tarte à la crème de nos amis militaires. Mais où est-ce qu'on va le placer? On n'en sait rien du tout à l'heure actuelle. Mais l'équilibre sera trouvé en augmentant la bande passante. Ça, c'est un point sur lequel je vais maintenant insister quelques instants. Le problème des armées actuelles, forcément, comme je l'ai parlé tout à l'heure, de connectivité, de connexion, c'est la bande passante. Alors, avant d'attaquer ce sujet, un dernier point, c'est que nous pouvons compléter tout combattant à l'heure actuelle avec les objets, ce qu'on appelait le web des objets, c'est-à-dire l'intégration de tout appareil interrogeable ou contrôlable à distance. Alors, un objet web, c'est un microprocesseur qui agit sur des données fournies par des capteurs intelligents, mémoire, CPU, un module d'émission et des batteries, c'est-à-dire une petite chose de quelques millimètres de côté. Application que vous connaissez peut-être, gestion de domicile, gestion de ville, surveillance des écosystèmes, donc application militaire de deux catégories, soit de donner un contact au soldat avec le monde, soit de mettre en contact le soldat avec le commandement. Nous comptons 30 milliards d'objets connectés à Internet déjà. Je vous ai montré quelques exemples, les montres Apple et les lunettes Google. Alors, maintenant, quelques mots sur les drones. Je me bornerai à quelques réflexions sur les drones tactiques. Alors, un mini-drone de reconnaissance constitué d'un modèle commercial, comme il en existe des centaines vendus 50 euros, muni d'un smartphone ou d'un webcam, devrait s'obtenir pour un prix dérisoire. Si j'avais l'honneur de commander un régiment d'infanterie, je trouverais les moyens de m'en procurer quelques-uns que je confierais à une section de renseignement. Tout le monde sait que c'est déjà la politique de l'armée israélienne. L'armée si peu coûteuse que tout le monde peut l'acquérir. En 2014, je vous rappelle, des drones inconnus restés non identifiés ont survolé des sites sensibles sur le territoire français. Nous sommes donc en présence d'une des armes potentielles les plus puissantes et plus dangereuses à rencontrer dans un conflit asymétrique. Voilà, je vous montre ça. Une page au milieu de 20 d'un catalogue qui vend des drones, et voyez le prix, 30, 40, 50 euros. Alors, les drones ont été utilisés pour l'élimination de chefs ennemis à partir de 2002 au Yémen par la CIA. Tout de suite, c'est devenu très populaire dans l'armée israélienne et surtout dans l'armée américaine, puisque le président Obama en a fait une de ses armes dès son élection. Le CIA effectue des tirs de ses drones partout, en particulier dans les zones tribales du Pakistan. Les chiffres que j'ai, là, il y a un chiffre qui a sauté, il y a à peu près 532 vols du CAV qui ont fait 3850 personnes, dont 465 civils. C'est dire que ce n'est pas nul. Hein. On a déjà tué de près de 4000 personnes avec cette manière-là. Voilà ici, à gauche, schéma qui représente le nombre de tués par UCAV depuis 2002. Vous voyez que c'est ça qui me donne les 3800 et quelques dans les zones. Ça, c'est une carte des zones tribales du Pakistan dans lesquelles ce système est très fortement utilisé. Alors, il n'y a pas que les Occidentaux. Le groupe DGI basé à Shenzhen revendique 70% du marché mondial des drones civils, avec un chiffre d'affaires de 440 millions. Le modèle se vend 700 euros. S'impose à tous les amateurs de photographie, et nous savons que Daesh emploie déjà des mini-drones chinois avec des charges ISR commerciales telles que celles qui sont développées par DGI. Alors voilà monsieur DGI qui présente à Las Vegas son Phantom, qui est un hélicoptère, et qui vous le vend pour 700 dollars. Il peut le vendre aussi à n'importe qui. Pour terminer sur les drones, parce que c'est un énorme sujet qui sera traité tout à l'heure, je veux simplement vous indiquer qu'il y en a qui sont capables d'autonomie complète. Alors, je cite simplement le Harpy, qui n'est pas jeune, conçu il y a 20 ans, opérationnel depuis longtemps. C'est un drone d'attaque des systèmes radars développé par Israel Aircraft Industries, qui détecte l'émission d'un radar et la compare à une base de données stockée à bord. Puis il passe à l'attaque et il envoie sa bombe de 32 kilos, vendue et opérationnelle depuis 10 ans en Chine, Corée du Sud, Inde. Ils ont fait un peu plus grand, qui est un peu différent, qui peut, lui, être commandé par un téléopérateur, si l'on veut, et qui n'a pas de bombe, mais il s'auto-détruit en se précipitant sur le radar. Voilà une photographie du Harpy. Alors, maintenant, quelques mots sur comment les moyens spatiaux s'intègrent dans cette analyse. C'est tout un vaste sujet qui est l'importance des moyens spatiaux. Je pense que notre ami Pascot en parlera. Pour moi, ils ont révolutionné l'art de la guerre. entre les deux guerres du Golfe, il y a eu une révolution de l'art de la guerre sur deux points. Premièrement, amélioration de la précision des frappes et deuxièmement, augmentation de la profondeur du théâtre. La précision des frappes, elle vient essentiellement de GPS. Je vous rappelle que pendant la Deuxième Guerre mondiale, pour frapper une maison désignée à l'avance, il fallait 1000 bombardiers. Aujourd'hui, pour la même mission, il en faut un. Donc là, nous avons une révolution. Et je ne vais pas insister sur la profondeur du théâtre, c'est une longue affaire. Et de plus, les moyens spatiaux apportent une aide directe et variée aux composantes sur les théâtres. Un commandant d'un bâtiment engagé dans Armatan m'a dit lors d'un de mes cours à l'école de guerre, sans moyens spatiaux, je n'ai plus de bateau. Or, pourtant, ce bateau est un des meilleurs de l'art royal. Et donc, c'est une déclaration d'un officier de très haut niveau, et je crois tout à fait que ça vaut la peine de la décortiquer, cette affirmation. Mais naturellement, de quoi parle-t-il? GPS, Télécon, ROEM, ROIM, Météo. Alors, les besoins en bande passante, c'est là où l'espace joue pour moi un rôle capital. Les besoins militaires augmentent entre 8 à 15% par an. Vous voyez, par exemple, entre les deux guerres du Golfe, les Américains, la première ont 500 000 hommes et la deuxième 50 000, et on passe de 100 mégabits de bande passante disponible à 600 mégabits. Alors là, regardez cette phrase en bas, un drone Global Hawk exige 500 mégabits par seconde, c'est-à-dire 5 fois plus que la bande totale consommée par toutes les forces américaines déployées pendant la première guerre du Golfe. Alors c'est là où vous voyez la révolution, l'effet de l'exponentielle de la loi de Moore qui transforme totalement l'art de la guerre. Quand je vous ai parlé de connexion et de connectivité tout à l'heure, c'est ça en grande partie que j'avais dans l'esprit. Alors pour augmenter cette bande passante, il y a un certain nombre d'opérateurs qui sont OneWeb ou Google sont des opérateurs de Californie, Samsung est de Corée, qui proposent de lancer des constellations de centaines de satellites, 900 pour OneWeb en orbite basse, petits satellites qui coûtent moins $1 million. Et Google et Samsung ont des projets, il y en a d'autres, je ne veux pas entrer dans les détails de ça. Et voilà le genre de satellite qu'on va se mettre à utiliser. Vous voyez, c'est pas très grand, ni très cher. J'ai fait une liste justement. Ça ne dit rien de plus que la liste que je viens de vous donner. En bas, vous avez la série des constellations qui est en prévue. Alors ça, je voudrais vous montrer cette petite photo qui est apparue dans Le Monde avant-hier. Et ce petit jeune homme de 14 ans habite Nancy. Il a reçu un prix de Google pour avoir fabriqué lui-même dans l'atelier de son papa son robot qui sert de jardinier. Voilà, regardez-le. Alors ce robot, il fait toute une série de choses et dans lesquelles je ne vais pas entrer en détail, mais je vous signale donc que vous avez un gosse de 14 ans qui a reçu le premier prix de Google pour la réalisation de cette affaire-là. Et c'est vous dire que n'importe qui dans une cité est capable de fabriquer un engin de ce genre sans aucune, disons, aide autre que accès à Internet pour quelques centaines d'euros. Alors là-dessus, vous pouvez mettre, un bâton de dynamite, si vous voulez, puis vous pouvez envoyer le petit robot se promener dans le métro, etc. Enfin, je voulais vous montrer ça parce que c'est vraiment d'actualité. Je vous dis, avant-hier, j'ai trouvé ça dans le journal. Et ça vous explique que quand on parle de robots, eh bien, on est sérieux. On peut pas dire, bon, c'est la science-fiction, bon, etc. Ça n'arrivera pas, c'est trop cher, ça marche pas, etc. Ben, cette photo, il faut la méditer, c'est ce qu'il y a de plus important dans mon exposé. Bon, je pense que j'ai dépassé mon temps.
Oui.
Alors, bon, je ne veux pas entrer dans la discussion de l'espace qui sera présenté, je pense, par notre ami Pascou. Et je veux conclure. Alors, l'évolution de la technologie continuera à imposer le rythme de la loi de Moore. est-ce un égalisateur, c'est-à-dire que le combat du glaive et du bouclier adoptera le rite, c'est-à-dire qu'on mettra au point avec une longue disons étude, etc., une nouvelle technologie à développer et à industrialiser, et une contre-mesure rapide à concevoir et mettre en œuvre suivra tout de suite. C'est ce qui est arrivé par exemple à un des robots, le MacBot dont je vous ai parlé tout à l'heure. Eh bien, au bout de 2 ou 3 ans, eh bien, les Irakiens ont trouvé une manière de l'empêcher de marcher en s'introduisant dans son software. Et donc, tout de suite, c'est pour ça que les Américains ont développé le Mars. Alors, Maginot est le mot-clé. Aucune forteresse imprenable. Créativité et créativité sont plus que jamais nécessaires. La stratégie doit reposer sur le fait que le champ de bataille sera les médias. Et la technique utilisera le swarming, c'est-à-dire l'attaque simultanée par des acteurs et des moyens multiples. Merci.